Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Art-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Une contre-histoire de la colonisation française » est un essai de Driss Ghali consacré à la colonisation française, à la décolonisation et à leur prolongement contemporain. Le livre adopte une perspective polémique et argumentée pour contester le récit dominant qui présente souvent l'empire colonial comme une entreprise globalement profitable ou comme un simple objet de repentance morale. L'auteur annonce une lecture chronologique, centrée sur la période allant de la prise d'Alger en 1830 jusqu'aux indépendances de 1962, tout en prolongeant l'analyse vers les effets durables sur les relations entre la France, le Maghreb et l'Afrique. Ce n'est pas un ouvrage d'historien académique au sens strict, mais un essai de synthèse qui veut rendre le sujet plus lisible pour le grand public. Son ambition est de déplacer le débat, d'examiner les faits économiques, politiques et idéologiques et de proposer une lecture moins manichéenne du passé colonial français. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une thèse centrale contre l'idée d'une colonisation économiquement rentable. Le point de départ du livre est une remise en cause directe d'une idée très répandue, la France se serait enrichie grâce à ses colonies. Driss Ghali soutient au contraire que la colonisation fut une très mauvaise affaire du point de vue économique et financier, parce que la métropole a peu investi dans son empire et n'en a pas tiré les bénéfices souvent supposés. Cette thèse donne au livre sa logique générale. Il ne s'agit pas seulement de juger moralement le colonialisme, mais de déconstruire un imaginaire politique et mémoriel fondé sur des simplifications. L'auteur insiste aussi sur le fait que les infrastructures mises en avant dans le débat public ne suffisent pas à résumer l'histoire coloniale. En d'autres termes, il oppose au récit d'exaltation ou de condamnation totale une lecture fondée sur les coûts, les limites et les déséquilibres du système colonial. Deuxièmement, une chronologie resserrée sur la colonisation française moderne de 1830 à 1962. Le livre se limite volontairement à la colonisation française la plus proche de nous, celle qui commence avec la prise d'Alger en 1830 et se termine avec les indépendances de 1962. Ce choix méthodologique est important car il permet à l'auteur de concentrer l'analyse sur l'empire qui a englobé l'Algérie, le Maghreb, l'Indochine et une grande partie de l'Afrique noire. Il écarte en revanche une partie de l'histoire coloniale plus ancienne, comme les Antilles, la Réunion ou la Guyane, qu'il juge relever d'une autre logique. Cette délimitation évite la dispersion et permet de suivre un fil historique clair, depuis l'expansion conquérante jusqu'aux recompositions postcoloniales. Le résultat est un essai qui privilégie la continuité des structures politiques et mentales, plutôt qu'une accumulation de cas séparés. La décolonisation n'est donc pas traitée comme une rupture pure, mais comme un moment inscrit dans une histoire longue, dont les effets se prolongent bien au-delà des indépendances. Troisièmement, la critique de la mission civilisatrice comme masque idéologique du projet colonial. L'un des enjeux majeurs du livre consiste à montrer que la colonisation française moderne ne s'est pas présentée comme un rapport de force brute, mais comme un projet prétendument civilisateur. Driss Ghali oppose à ce discours la conviction que cette rhétorique a servi à dissimuler des motivations plus concrètes, plus politiques et moins avouables. Le livre insiste ainsi sur la différence entre les anciennes colonies de l'Ancien Régime, dominées par une logique mercantiliste plus assumée, et la colonisation post-révolutionnaire, qui prétendait agir au nom de valeurs universelles. Cette distinction est centrale, car elle permet de comprendre pourquoi le récit colonial a pu se maintenir avec une telle force symbolique dans la mémoire française. L'auteur ne nie pas la violence coloniale, mais il veut aussi montrer que les mots utilisés pour la justifier ont longtemps brouillé la compréhension du réel. Son analyse revient donc à défaire un vocabulaire politique qui a rendu le passé à la fois plus acceptable et plus difficile à examiner lucidement. Quatrièmement, la décolonisation et ses prolongements indépendance politique, dépendance durable. Le livre ne s'arrête pas au moment de la sortie formelle de l'Empire. Il traite la décolonisation comme une formalité historique qui n'efface pas immédiatement les rapports de domination, les dépendances et les déséquilibres nés de la période coloniale. C'est l'une de ses originalités les plus nettes. La colonisation est présentée comme un phénomène qui se transforme après 1962 au lieu de disparaître complètement. L'auteur évoque ainsi des relations nouvelles entre la France et les anciens territoires colonisés, relations qu'il décrit comme des formes de domination et des solidarités inédites. Cette extension vers le présent permet de relier histoire, immigration, politique étrangère et mémoire collective. Le livre suggère que les débats contemporains sur la responsabilité, la repentance ou l'identité française ne peuvent pas être compris sans cette continuité. Il ne s'agit donc pas seulement d'un essai historique, mais aussi d'un diagnostic sur la manière dont le passé colonial continue d'organiser le présent. En dernier lieu, un essai polémique contre la repentance, la désinformation et les récits figés. Au-delà de son contenu historique, Le livre se définit par une ambition intellectuelle explicite à agir comme un antidote contre la désinformation et la pensée unique. Driss Ghali se présente comme un auteur qui veut rendre le lecteur capable d'argumenter face à des discours qu'il juge prisonniers de la culpabilisation, de la victimisation ou de la mauvaise foi. Cette posture explique le ton volontiers direct de l'ouvrage et sa volonté de s'adresser à un public large, pas seulement à des spécialistes. Le livre ne cherche pas la neutralité académique absolue. Il veut produire un effet de clarification dans un débat saturé d'émotions et d'idéologies. C'est précisément ce qui le distingue de beaucoup d'essais sur la colonisation, souvent situés soit dans le registre de l'accusation morale, soit dans celui de la défense nostalgique. Ici, le propos est de replacer les faits au centre, même au risque de heurter plusieurs camps à la fois. En conclusion, ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre la colonisation française sans se contenter des formules convenues, qu'ils soient lecteurs, intéressés par l'histoire, les relations internationales, la mémoire coloniale ou les débats sur l'immigration et l'identité française. Son principal intérêt est de proposer une synthèse accessible tout en assumant une position nette, ce qui le rend utile pour le lecteur qui cherche moins une monographie spécialisée qu'un cadre d'interprétation cohérent. Il peut aussi intéresser ceux qui veulent disposer d'arguments structurés dans un débat public souvent dominé par des simplifications contraires. Ce qui le distingue d'autres livres du même genre, c'est sa combinaison de chronologie claire, de thèses économiques fortes et de prolongements vers le présent. Il ne traite pas la colonisation comme un sujet clos, mais comme une réalité historique dont les effets se lisent encore dans les rapports entre la France et ses anciens territoires. Cette orientation explique pourquoi l'ouvrage est à la fois polémique, pédagogique et mémoriel. Si vous souhaitez soutenir Driss Ghali, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.